cours précédent intitulé « Trump et l'Iran, partie 1 », j'ai donc parlé de cette union, cette fédération des pays arabes sunnites que Trump est en train de créer avec l'Arabie saoudite principalement, le plus grand contrat d'armes de l'histoire, 400 milliards de dollars, pour contenir l'Iran. Il y a eu un attentat depuis en Iran. Le Daesh a attaqué en Iran. Et si vous étiez à la place de l'Iran, et vous voyez maintenant que Trump, il est en train d'amener des milliards, 400 milliards d'armes, d'accord, trucs sophistiqués, américaines, contre l'ennemi juré de l'Iran, donc le monde sunnite. Vous savez comment ça a commencé, ça? Mohammed, il est décédé, il n'avait pas de garçon, avec des filles. Alors la question s'est posée, qui va continuer de son œuvre? Il y en a qui ont dit son gendre, Ali, qui s'appelait. D'autres ont dit non, son compagnon de combat, Abu Bakr, qui s'appelait. Et il y a eu deux mouvements, un sunnite, un chiite. Et puis, je crois qu'il y a un, ils ont tué le fils du cousin, quelque chose comme ça. Depuis, ils ont une haine entre eux, au point où aujourd'hui, l'Arabie saoudite, elle devient amie avec Israël. Que pendant des dizaines d'années, l'Arabie saoudite, elle finançait le terrorisme ici en terre d'Israël. Tout à coup, maintenant, contre la Perse, contre l'Iran, contre les chiites, ça vaut la peine maintenant même de s'unir avec les ennemis sionistes de toujours. Donc, si vous voyez maintenant que vous êtes Ali Khomeini, d'accord, Khomeini ou Rouhani, président de l'Iran, premier ministre, vous voyez maintenant que l'Arabie saoudite est en train, avec le Koweït, les Émirats, sont en train maintenant d'être armés, etc., contre vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez lentement qu'ils s'arment, ils s'arment. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors maintenant, je vous lis le Midrash qui a été écrit il y a 2000 ans. C'est stupéfiant. Il faut comprendre, donc, l'Iran, ça s'appelle la Perse, Paras. Amar Beitzrak, Adira Beitzrak. Shana Shemelech Mashiach Nigla Bo. L'année où le Mashiach se dévoile, où le roi Mashiach se dévoile. Parta Shem, très bientôt. Kol Malche Umot Haolam Midgarim Zebazé. Tous les rois de la terre sont en querelle les uns avec les autres. Kim Jong-un contre le Japon, Corée du Sud, la Chine contre l'Amérique, au Yémen, en Syrie, Daesh en France, ils menacent maintenant de liquider la France, partout. Poutine avec l'Amérique, non seulement en Syrie, la crise qu'il y a eu là-bas, nous, dans la mer Noire, comment ça s'appelle, c'est peut-être presque île. La Crimée, l'Ukraine, bon, partout. Meler Paras, entre autres, Meler Paras, le roi d'Iran, Midgareb et Meler Haravi, est en querelle avec le roi d'Arabie. C'est quoi le roi d'Arabie? L'Arabie saoudite. Voler Meler Haravi, va le roi d'Arabie, les Edom, les Tol et Samehem, voir l'Occident, prendre conseil chez eux. Donald Trump. Aidez-nous. Mais bien sûr, on vous aide, prenez. 400 milliards d'armes. Que fait le roi d'Iran? Vechoser Mer Paras, revient le roi de Perse. Umachiv et Kola Olam, détruit le monde entier. Ils ont des cellules dormantes partout dans le monde. Dans leur conception, je l'ai dit dans le cours précédent, chiite, il faut que le Mahdi, le Mashiach, il arrive dans le cadre de massacres terribles dans le monde. Ben, ils vont le faire. Comment vous me direz, mais ils ne sont pas très forts. Hein? Ils n'ont pas encore la bombe atomique, on espère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de décimer des populations entières. Comment on fait? Je ne vais pas donner moi après, les gens vont dire que je donne des idées aux...
Attaques chimiques.
Hein?
Des attaques chimiques.
Chimiques. Encore plus facile que chimiques. Avec le chimique, combien de gens on peut tuer?
Des millions.
Comment des millions? Comment?
Dans de l'eau.
Non. Contaminer, c'est pas du chimique. Il y a des produits, d'accord. Tu as un gaz, il faut des bombes de gaz, il faut des avions, il faut des quantités énormes. Tu ne veux pas tuer beaucoup de gens avec le chimique. Par contre, contaminer l'eau. Ça ne s'appelle pas le bactériologique, c'est tout fait différent. Tu mets une petite éprouvette. Tic. Si c'est pas bien protégé les endroits, c'est protégé aujourd'hui. Mais si, je parle des idées, bon, mais on peut en passer au travers des protections, d'accord. Avant qu'on se rende compte que l'eau, elle est contaminée, il y a déjà 10 000 morts. Il y a des articles en France qui ont paru. Avant qu'on se rende compte que c'est contaminé, il peut déjà avoir 10 000 morts. Contaminé. Puis après, alors, il faut faire la quarantaine, etc. J'ai fait un cours, une fois j'avais dit, les gens disent, beaucoup de juifs, ils disent, quand ça commence à tourner au vinaigre, on prend le premier avion, on vient en Israël. Abraham Kanievski, il a dit, quand vous venez maintenant, quand vous voudrez venir, vous ne pourrez plus venir. Il a dit ça souvent, venez tous maintenant. Alors attends. Alors on ne comprend pas pourquoi. Bon, on a vu que lorsqu'il y a eu l'attaque du Daesh au Bataclan, tous les vols d'Europe pour Israël ont suspendu. Toute l'Europe suspendue. Alors, imagine que c'est un truc bactériologique. Un avion qui vient maintenant de France vers Israël. Ben, Israël dit, ben, rentre. Mais ma femme, mes enfants, ma maman, tout le monde est en Israël. Ben, mon cher, t'es peut-être un contaminé. Un des seuls pays au monde qui est aussi fermé, c'est Israël. Il y a la mer, et tous les côtés, on a des ennemis. Fermé. Il y a des frontières électriques, avec trucs, machin, champs de mines. Enfin, impossible de rentrer. Un des seuls pays au monde qui est vraiment fermé. Avec la Corée du Nord, peut-être. Je crois qu'on est les seuls deux pays comme ça. Je continue. Vient le père, le roi de Perse. Elle détruit le monde entier. Le Cholou Montaolam, tous les peuples de la terre, Mitrahashim font du bruit, Mitbaalim, et sont terrorisés. Noflim alpnehem, et tombent sur leur face. Le Chosotam, Tserim, Kisrim, Iloda, ils seront pris de contractions comme une femme qui accouche. Ça fait très mal. Peur. V'Israël, et Israël, c'est donc le peuple juif, Mitrahashim, Mitbaalim, eux aussi, font du bruit, sont terrorisés. Mais ils ne vont pas tomber sur leur face. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ils vont dire, Lechana, vous venez l'air, Lechana, vous venez l'air. Où aller? Où venir? Où aller? Où venir? On va en Israël. Là-bas, il y a le Hamas qui envoie depuis le sud des missiles. Tu as le Hezbollah qui envoie, parce que quand ils vont attaquer, c'est le Hezbollah, c'est la plateforme iranienne. C'est le plus grand ennemi d'Israël. Dernièrement, le Ramatkal Eisenkot, le chef de l'armée israélienne, dit l'ennemi numéro un en priorité, c'est le Hezbollah. Excellent soldat, très bien armé. Au Racham, ils ont perdu un quart de leurs soldats dans la guerre en Syrie, mais on avait ici des commandos ici à l'armée. Il nous a dit le Hamas n'a pas visé. Le Hezbollah, c'est des très bons soldats. En plus, ils ont 3-4 ans d'expérience maintenant sur le terrain de guerre. Ils sont en guerre en Syrie, d'accord. Donc, c'est des très très bons soldats. Et ils ont 150 000 missiles. Fais le compte, c'est à peu près un missile par maison en Israël, Hachem Ishmor. Donc, on va en Israël, et mon cher ami, ça peut des missiles ici. Bon, on reste en France. Ça pleut du Daesh, du Iranien, de tout ce que tu veux, de tous les côtés. Où aller, où venir? Où aller, où venir? Qu'est-ce qu'on fait? Vomarlaim, il leur dit, Banaï, mes enfants, Altitiaru, n'ayez pas peur. Kol Machasi, tout ce que j'ai fait, la cité est là, Bishulchem, je ne fais que pour vous. Mipnematem, Mitiarim, pourquoi vous avez peur? Altiraou, n'ayez pas peur. Donc ceux qui m'écoutent et commencent à avoir peur, alors, regarde ce que Dieu nous dit. N'ayez pas peur. Relax, Max. Pas de problème. Et Giazman Gioulatrem, le temps de votre rédemption est arrivé. Alors, ta question, c'était, David, ceux qui sont à l'étranger. Alors, ceux qui sont en Israël, qui repartent à l'étranger, je ne sais pas comment ça va se passer pour eux. Celui qui est à l'étranger ne peut pas venir parce qu'il est occupé de sa mère qui est malade, ou il vient, il est en Israël, il n'a pas de travail, il n'a rien. Alors c'est écrit, j'ai déjà lu ça. Allez, redonne-le-moi. Il y a une Bible ici qui se balade. Chapitre 3, versets 3, 4, 5. Je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre. On ne sait pas ce que c'est. Du sang, on sait ce que c'est. Du feu, on sait ce que c'est. Et des colonnes de fumée. Mauvaise traduction. C'est marqué... En hébreu, c'est ce qu'on dit quand on fait la galère de Pessah. On verse 16 fois du vin dans le seau, d'accord? À un moment, on dit Dam, ve'esh, ve'timrot ashan. Dam du sang, ve'esh du feu, timrot ashan. Ashan c'est la fumée. Timrot c'est quoi? C'est du mot, c'est un pluriel de tamar. Tamar, timrot. Tamar c'est quoi? Un palmier. Un palmier de fumée. C'est quoi? T'as une colonne. Vous connaissez ça? Champignon atomique. Actuellement, en France, on appelle ça un champignon. Chazal l'appelait un palmier. Il n'y a pas beaucoup de champignons en Israël. Alors, ils ont appelé ça un palmier. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. Mashiach arrive. Dieu va se dévoiler.
En soi, ils vont la jeter, la palmier.
Hein?
En soi, ils vont mettre.
On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants et ceux qui lira le Seigneur. T'as compris quelque chose? T'as rien compris. C'est incompréhensible. Je vous relis le verset. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça, on comprend. Car sur le mont Sion c'est Sion, la terre d'Israël, et dans Jérusalem, Yerushalayim, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera, parmi les survivants, à ceux qui liront le Seigneur. Pas clair. Le Malbim, un des plus grands commentateurs, il dit comme ça. Seront sauvés, il y aura deux catégories. Ceux qui habitent Israël, là-bas, tout le monde sera sauvé. Même les, ceux qui tiendront jusqu'à là. Hein? S'ils sont encore là. À l'étranger, ceux qui invoqueront le Seigneur, ceux qui vont appeler Hachem. Donc c'est ce qu'il faut faire à l'étranger. Donc on ne peut pas dire tout le monde venez, 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 parce que pas tout le monde peut venir. Ceux qui peuvent venir, c'est mieux de venir. Encore quand on vient, il faut avoir les moyens de réussir. Si c'est pour partir en cacahuète, comme c'est le cas très souvent, en Europe, c'est en France, c'est clair. Celui qui ne peut pas venir, alors qu'il se rapproche de Dieu, et tout ira bien avec ta chair.
Oui, il répète, qu'il dit à Sion.
Et à Jérusalem. Je dis, Sion, j'avais Sion. Har Tzion, aujourd'hui, ce qu'on appelle, c'est une partie de Jérusalem. Mais Tzion, en général, c'est toute la terre d'Israël.
Pourquoi il précise si c'est toute la terre d'Israël?
Et Jérusalem, c'est plus que Tzion.
Ah, donc tout le monde
pense à ça. Le top niveau, Jérusalem. Je pose la question au Rabbi Nissan Abba Shaoul. Je parlais beaucoup avec lui du Mashiach. Il ne parlait plus beaucoup à cette époque-là. Vu les Kvod Arav, c'est marqué, Gog ou Magog, ils viennent du nord. C'est marqué, du fond du nord, ils viendront sur Jérusalem. Ils doivent mourir ici. Gog ou Magog doivent arriver à Jérusalem. On avait c'est les Perses, il semblerait les Iraniens, la Russie. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Venir à Jérusalem, c'est pas très sympa. Hein? Je vous lis un peu comment ça se passe à Jérusalem.
Enfin, on ne peut pas dire que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus jusqu'à Jérusalem, presque.
Ils ne sont pas arrivés. Non, ils doivent arriver à Jérusalem. C'est pas Gog ou Magog. Ils doivent venir du nord sur Jérusalem. Pénétrer et rentrer dans le pays, c'est marqué clairement. Qu'est-ce que je vais vous dire? Tzfania. Chapitre 13. Fin chapitre 13. Et il arrivera que dans tout le pays, dit l'Éternel, deux tiers seront retranchés et périront. Et qu'un tiers seulement, il restera en vie. Le pays, on ne sait pas ce que c'est. Il y en a qui disent Israël, il y en a qui disent le monde entier. Et ce tiers, je ferai passer au feu, j'affinerai comme on affine l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et moi j'exaucerai. Il invoquera mon nom, comme on a vu dans Yoël auparavant. Je dirai, c'est là mon peuple, et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Comment ça va avoir lieu? Début chapitre 14, c'était fin chapitre 13. Voici venir un jour de par l'Éternel où tes dépouilles seront partagées dans tes murs. Je rassemblerai tous les peuples autour de Jérusalem pour l'attaquer. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violentées. La moitié de la ville ira en exil, mais le reste de la population ne sera point arraché de la ville. Alors l'Éternel s'en viendra à guerroyer contre ses peuples, comme jadis, il guerroya au jour de la rencontre. Alors, massacre. Et après, Hachem vient et massacre des ennemis. Donc je dois revenir sur un Boshaoul. Quand ils viennent, moi je ne vais pas me faire massacrer, ni ma femme violentée. Je prends la voiture et je vais vers le sud. Beersheba, Elat, Sharm el-Sheikh, Ras Nasrani, ce tout petit bout là de Pen du Sinaï. Ah, je vais au Soudan, d'accord. Là, hein? Ou il faut rester ici? Ah, il a fait comme ça. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Il a fait comme ça. Il a pris le doigt comme ça. Il a fait comme ça. c'est-à-dire on reste. Ah, c'est marqué qu'il y aura des massacres. Alors, une autre fois, il a raconté ça, des choses que j'ai racontées souvent. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, Gog ou Magog aura lieu. Et devenir tous ces peuples une union, on peut appeler cela une délégation internationale, fédération internationale, pour libérer Jérusalem. Il y aura lieu. Mais à mon avis, comme ça, Da'ati, à mon avis, tous les massacres, toute la souffrance qui était inhérente à cette guerre, dans le Talmud, c'est écrit que le Mashiach vienne, je ne veux pas être présent tellement ça va être terrible. Ça a déjà eu lieu dans la Shoah. La souffrance, donc il y aura un Gog ou Magog sans souffrance. Et Gog ou Magog doit avoir lieu.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, Jérusalem. On a
bien, sûr, ça, Jérusalem. Bien sûr, ça se passe, bien sûr.
Non, mais les nations entières, elles sont contre nous.
Habibi, c'est cette année, Bezrat Hashem. On y est. Pourquoi je te dis maintenant, Paras, l'Iran, tout ça. On y est, cette année, Bezrat Hashem. Moi, je suis convaincu. Ah. Mais bon.
J'ai deux questions.
Je me trompe toujours. Alors, mais cette fois pas. Mais cette fois.
J'ai deux questions. Déjà, c'est s'il y a une souffrance, alors ça sera comment? Et de deux, si par exemple quelqu'un il commence à faire teshuvah pendant Gog ou Magog. Genre par exemple, tu fais pas Shabbat, tu commences à faire Shabbat.
Voilà. J'ai pas la réponse à ta question.
Est-ce qu'on peut dire que lui il a invoqué le Seigneur ou.
Hachem jugera. J'ai demandé au Shamash de Rabbi David Abouchatzera, je vais parler, je lui pose cette question. Alors, Rabbi David Abouchatzera, il a répondu au dernier moment, il y aura encore une porte ouverte pour la teshuvah. Au dernier moment. C'est quand le dernier moment, comment ça sera, on ne sait pas. Je crois que personne au monde ne peut savoir. Même le Rambam me dit qu'on n'a pas de Kabbalah, on n'a pas de tradition claire, comment ça roule, parce que tu as beaucoup, tu as des prophéties différentes, tu as des midrashim différents, donc tu as plusieurs scénarios possibles. Lequel sera le vrai? Très prochainement, on le saura. En tout cas, c'est clair que plus tu fais Tchouva maintenant, mieux ça sera, c'est évident.
Est-ce que vous avez un jour, c'est bien de donner des dates. C'est-à-dire, même si c'est pas sûr, on dit, voilà, c'est cette année. Ça peut pas
être. Alors la question que tout entend bien, c'est un autre cours, mais bon, je vous pose la question de comment y répondre. La question est, voilà, j'ai une tendance, moi, à donner des dates qui sont que des dates propices. Je dis bien, je me trompe toujours, c'est faux, ce ne sera pas comme ça, mais j'espère. C'est une date qui est probable, propice, qui peut avoir lieu. Mais s'il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu. Est-ce que je pose la question à Rabbi Sambachalou si on pouvait faire ça, oui ou non? Non. Pour deux raisons. D'abord, lui-même, il a fait. Il a dit, en avril 1990, il a dit, Pessah, ce Pessah, Mashiach, viens. Il lui a dit plus fort que moi. Il a dit, et s'il ne vient pas? Quoi, il ne vient pas? Il vient. Il voyait tous les gens pas mariés. T'es pas marié? Marie-toi vite, Mashiach, viens, Pessah, fais vite, marie-toi vite. Fais ressort, Mashiach, pas marié.
Ça décourageait des gens, ça?
Bien sûr, ça décourageait des gens.
C'est pas ceux qui sont.
Et attends. Quelques jours après, avant Pessah, tout le monde l'a vu. Pas de bonne humeur. Moi, ce Pessah, j'étais avec lui, du début à la fin. Quand Pessah est sorti, j'étais avec lui. Mossé, Shabbat, on attendait les minutes, tac, 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 tac. Voilà, Pessah est sorti, Mashiach n'est pas venu. Alors, je l'ai couru d'arabe. Alors, il n'a rien dit. On a pas vu. Après, il a dit, à cause des Machlokot. À cause, il y a eu des trucs terribles à l'époque, il y a eu des élections, un clan qui part sur l'autre clan, c'est le pire. La raison pour laquelle on est parti, on existe, c'est à cause des Machlokot, à cause des divergences, comment on appelle ça en français? Les marlocotes, les disputes entre clans et lachonara, chacun à base. Maintenant, le Rav Yehuda Tzadka, qui est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef et son meilleur ami, lui a dit, Ham Ben Sion, pourquoi t'as parlé? Voilà, t'as parlé, pourtant il n'y a pas eu, et t'as découragé les gens. Il lui a dit, Ham Yehuda, tu sais comme moi d'où je savais ça. Toi, tu savais comme moi, alors pourquoi tu parles?
Oui,
c'est pas dit dans l'histoire. Et Yohanavi lui a dit, je ne sais pas, c'est des gens de très haut calibre. On parle de gens de très très haut calibre, d'accord? Maintenant, Reb Chaim, c'est la même chose. Reb Chaim Kalinsky dit qu'on y est, c'est clair, ça fait longtemps qu'il dit.
Mais ça peut dégoûter des gens de la religion,
c'est pour ça.
Si eux, ils disent ça.
Voilà, alors là, je te dis, maintenant, au cas, il a dit comme ça. Maintenant, nous, on fait attention. On dit, c'est une date propice. Maintenant, d'où on voit ça? C'est bourré. Dans les commentateurs du Tanakh, tu prends Rashi. Rashi, dans Daniel, donne une date. Rav Sadia Gaon, au 8e siècle, s'est planté. Il a donné une date, il s'est planté. Rachid dit, chaque génération, on donne des dates, on espère. Si ça vient, tant mieux. Si ça non, on aura encore d'autres dates. Lui-même, il dit ça. Le Ramban a donné une date. Rav Sadia Gaon a donné une date. Ibn Ezra a donné une date. Rachid a donné une date. Le Malbim a donné une date. Beaucoup.
Et comment ça se fait qu'ils se trompent tous comme ça?
C'est ce sont des dates probables. C'est pas, on n'est pas des prophètes. Un prophète, s'il se trompe, il dit quelque chose, il se trompe, on le tue. On n'est pas prophète. Et nous, ce sont des dates probables. Maintenant, comme il a dit Johan, tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, ça correspond super bien. Alors, tu prends les textes, tu connais, et tout comparatif. Ce qu'on a, nous, aujourd'hui, personne n'avait auparavant. C'est marqué dans la Torah. C'est même pas les prophètes, c'est marqué qu'à la fin des temps, on reviendra en terre d'Israël. On y est. On fera tchouva. Il n'y a jamais eu de mouvement de tchouva aussi grand dans l'histoire d'Israël. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98a, dit « Tu n'as pas de signe plus clair de la fin que la terre d'Israël va donner ses fruits. » Elle donne ses fruits de façon abondante. Le monde d'Ismaël doit tomber. Il tombe. On doit avoir une union des peuples contre nous. On a toujours eu. Mais contre Jérusalem, c'est en train de se préciser. On a ici une guerre entre l'Arabie et la Perse. Contre l'Amérique et la Perse. Les grands nations atlantiques, c'est pour bientôt. Ah, qu'est-ce que de plus ? Quand ça sera ? Personne ne sait. On a des calculs. On fait des calculs. La vie d'Ismaël, j'ai fait un cours là-dessus, 138 ans, on arrive normalement. Je n'ai pas fait ce calcul, ce cours-là. Ah, ah, tu ne connais pas trop. Okay, ouais. Il connaît, il l'entend 100 fois. Voilà, il te le fera, Yochai.
C'est pas mieux de dire c'est proche. Voilà, moi c'est proche et on n'imite pas la venue que de donner date.
Regarde, il y a des gens, c'est vrai, qu'il y a des gens qu'on leur dit, même si on le répète 40 fois, c'est qu'une date propice, je me trompe toujours, dit le Rav Shaï, il a dit que. Ma chère venait à Pessah. D'accord ? Il n'y a rien. Après, il dit, oh, si c'est comme ça. Comme tu dis, c'est rien du tout. Mais je suis pressé dans ce que je dis. Maintenant, personnellement, quand on me dit c'est proche, ok, la vie continue, laisse tomber. Quand on dit, écoute, mon cher ami, c'est cette année, et moi j'y crois, c'est différent. Tu ne fais plus la même chose, tu ne vas pas aller en boîte, si tu as un minimum d'intelligence dans le crâne, d'accord ?
C'est pendant 15 ans, il y a ça.
Pardon ?
C'est pendant 15 ans, il y a la même chose.
30 ans. Quand je fais fiancé avec ma femme, elle habitait la Suisse, moi j'étais ici, j'étais fiancé avec elle. J'ai écrit une lettre, rappliquez tous pour Pessah, ma chère, il arrive. Toute la famille, la grand-mère, tout. Ils ont tous rappliqué, je l'ai fiancé. Ça n'a pas changé.
Les méritants ou pas ?
Ma femme, aujourd'hui, je parle ma chère, ça rentre par là, ça... Rien, c'est... Calme plat.
Peut-être grave qu'à ces dates, on est vraiment méritant. On n'est pas méritant, mais ça doit vraiment avoir lieu, ces dates-là.
Ben, ça attache.
Ça baisse la crédibilité des rabbins, par exemple, Rachid va donner une date, c'est Rachid.
Mais je le répète une chose, je ne comprenais pas. Tous les rabbins qui ont donné des dates qui sont des dates propice, probable, il y a des fortes chances que, mais c'est pas forcé. Donc c'est pas arrivé, on ne méritait pas, on est si méritant.
Le fait de donner la date, ça fait en sorte que ça vienne pas. Je pense qu'ils ne sauraient pas donner la date, ça aurait pu...
Au contraire, les gens ils font tchouba, etc.
C'est on s'attendra pas, ça
hein pas. Non, c'est pas écrit comme ça.
Non.
C'est marqué qu'il y a trois choses qui viennent par essai à date, qui viennent de façon inconsciente. Un scorpion, personne ne va mettre le pied sur un scorpion volontairement. Une trouvaille. Tu dis, bah, je pars dans la rue chercher une trouvaille, d'accord ? Tu la trouves. Et Mashiach. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vient quand on n'a pas de conscience. On est inconscient. Je peux dire, je suis inconscient. Parce que moi qui y crois dur comme fer. Si j'étais conscient du temps du Rambam, le Rambam il parle déjà des faux prophètes, d'accord ? Il y avait des faux prophètes qui annonçaient Mashiach venait. Des faux prophètes. Et pas à Lyon. Il dit, dans une grande ville de France, du temps de mon père, il y avait 10 000 juifs, il s'appelait Lyon, comme ça il est écrit. Un type, il a annoncé que Mashiach venait. Qu'est-ce que les gens, ils ont fait ? Du temps de Shabtai Tzvi, un faux messie, il y a 400-500 ans, les femmes et les enfants faisaient des jeûnes, 3 jours de suite, non-stop, 72 heures de jeûne. Les femmes et les enfants, les hommes, j'en parle pas. Si vraiment... Moi, j'y crois que ma chère, mais j'ai pas de conscience. J'ai de la conscience. Mais on serait comme ça. On ferait pas une seconde de Bitul Torah. Ils ont Torah, mitzvot sans cesse, tout, fila. Ma chère, il arrive. On est complètement inconscient. Ma chère, elle vient pour nous. Complètement inconscient. C'est bon ? Encore une question ?
Ma chère, il vient. Qu'est-ce qui se passe ? On voit, on reconnaît.
Je ne sais pas comment ça se passera. Mais il va voir les grands de la Torah, qui vont vérifier d'abord qui est ce monsieur. Il doit connaître toute la Torah.
Tout le monde va le reconnaître.
Les grands de la Torah d'abord vont il va se faire connaître. Ils verront qu'effectivement c'est un monsieur d'un calibre extraordinaire, connaît toute la Torah. Il juge les gens par l'odorat. Et comme écrit le Rambam, il est supposé être Mashiach quand il va s'atteler à 4 tâches. On sera certain que ce sera lui lorsqu'il aura réussi ces 4 tâches. Construction du temple, retour tous les juifs en terre d'Israël, vaincre les guerres de Gog et Magog et faire en sorte, le plus dur que tous les juifs, fassent tout vrai, tu de la Torah. Avec moi, ça va très très vite. Pink, le temps puis descend. C'est marqué. Bah ouais, mais on sera très vite sur ce truc, sur lui. Gog ou Magog. Normalement, c'est dans Gog ou Magog qui se dévoile. Ça va être très rapide. C'est très rapide. Le Gaon du Vilain, il a dit, la phase dernière de Gog ou Magog, elle dure 12 minutes et demie.
Ouais, c'est ça.
Le Gaon du Vilain, je ne sais pas d'où il sait. Le Gaon du Vilain, son commentaire, il fait un commentaire ce soir, il dit, je tiens sur les douches de Yaakov Avino. Oh. Tu comprends de quoi on parle. Le Gaon du Vilain. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais maintenant. Alors maintenant le Mashiach, comment il va faire? Gog ou Magog viennent maintenant des millions. C'est marqué Beruar Sfatav Yamitracha. Par le souffle de ses lèvres, il tuera le mécréant. Crève. Plac, tous morts. Crevé. Au pluriel. D'accord? Ah, ça serait un homme exceptionnel. Genre, il n'y aurait pas eu d'âme aussi grande. C'est Moshe Rabbeinu qui revient. C'est marqué dans Shlomo Shlomo Melech, il dit. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. De quoi on parle, ce qu'il y a eu? Moshe, ce qu'il y aura, Mashiach. Et Mashéhaya Husheye, c'est le racheter votre, les initiales de Moshe. Mashéhaya Husheye, Moshe. Donc c'est l'âme de Moshe qui revient avec l'âme de David, les deux dans la même personne. C'est un homme exceptionnel, donc il fera des choses extrêmement, et Dieu va l'investir de ses pouvoirs-là. Donc comment ça sera, on ne sait pas. Mais on saura tous rapidement que c'est lui, très très rapidement, c'est une question de quelques minutes. Et Baruch Hashem.
Et lui, il sait que c'est lui là en ce moment.
Il y a un moment où, au début, il ne sait pas que c'est lui. Un moment, il reçoit la Yechida du Mashiach, l'âme du Mashiach qui se trouve dans le paradis, dans quoi s'appelle le Kan Tzipor, le nid de l'oiseau. Elle descend en lui, et là, il sait que c'est lui.
Là, il est parmi nous.
Oui, il est parmi nous. Abraham Kanevski, il est parmi nous. Abraham Kanevski, il a eu une interview, pas parmi nous ici à la Yeshiva, mais il est parmi nous.
Son emploi du temps de la journée, par exemple.
Pardon ?
Son emploi du temps de la journée à midi à 7h et puis quoi ?
J'imagine qu'il étudie beaucoup de Torah. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, il y avait une histoire, le Hafetz Chaim, il a envoyé une fois un messager à un type qui était. Qu'est-ce qu'il forgeron ? Je ne sais plus ce qu'il faisait, forgeron, quelque chose comme ça. Un métier simple comme ça. Il a amené un billet, une lettre comme ça. Le type, il a pris. C'est un savait qu'on avait une barbe, des potes, tout ça. Il a pris la lettre, l'a jetée dans le feu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je sais pas qu'il lui a dit, vas-y, dévoile-toi.
Alors, le Horazim, c'est sûr que ça va se passer.
Qui va s'ouvrir, ouais. Ce sont des notions kabbalistiques. C'est clair que c'est kabbalistique.
Il est dans l'Israël ou il peut être en exil?
D'après le Rambam, il se dévoile en Israël.
Parce que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël.
Moshe Rabbeinu, ma chère, se dévoile. Comme ça, le Rambam écrit dans Igeret Teiman. Il a écrit une lettre, ça vaut la peine. Je ne sais pas si c'est en français, c'est extraordinaire. Un vrai séminaire. C'est une. Lettre qu'envoyait le Rambam aux Yéménites. Et parce qu'il y avait justement quelqu'un là-bas qui se prenait pour le Mashiach et qui faisait des trucs très tordus et c'était dangereux, on ne savait pas quoi faire. Il dit si on le laisse faire, les Arabes vont se défouler et vont tous nous tuer. Si on le tue, on sera accusé d'assassinat. Alors Rambam a écrit une lettre entière leur expliquant qui c'est Mashiach, comment c'est une écriture, c'est fantastique, très très beau. Il leur dit, vous le prenez, vous le mettez dans un asile de fous, d'accord? Vous le jetez, il est fou. Voilà, comme ça, il devient inoffensif, mais il ne vous met pas en danger d'aucune des deux façons. Il envoie une lettre extrêmement belle, là-bas il dit que le Mashiach se dévoilera tout à coup en Israël.
C'est qu'on peut trouver cette
lettre?
C'est dans quel livre?
Ça s'arrête dans n'importe quelle librairie juive. Igeret Teiman, lettre aux Yéménites.
Comment notre génération, elle va supporter la shrina que le Mashiach va amener?
Pour ça que le Mashiach vient, et ceux qui étaient en Égypte, ils étaient Ovdei Avodah Zara, ils étaient idolâtres. Idolâtres. Quand ils passent la mer, les anges disent pourquoi eux, et pourquoi les Égyptiens et pas les Juifs, ils sont égaux. Et 5 jours après, on a vu la shrina. Donc c'est ça le travail du Mashiach, faire monter toute l'humanité à un niveau très haut.
Vous dites que Dieu, il accepte la parole d'un tzadik. Alors je comprends pas pourquoi Rav Kanevski, Rav Steinman, Rav David Abraham, tous les tzadikim comme ça, pourquoi ils prient pas et...
Je vais te répondre.
Ah, genre, ok, ils prient, mais
je vais te répondre.
Comment ça c'est qu'il vient pas alors?
Je vais te répondre. Il y a 300 ans, 250 ans, trois plus grands rabbins du peuple juif, Rav Hida, Rav Della Rosa, j'oublie le nom du troisième, c'était vraiment des gros calibres. Ils se sont esselés, ils se sont dans un grenier comme ça, ils ont commencé à faire des yichudim, des intentions kabbalistiques pour que ma chère revienne. Et une voix est venue du ciel, elle leur a dit, si Mashiach vient maintenant, il y aura 7000 juifs pour le recevoir, tout le monde va mourir. Il faut oser faire une chose pareille. Maintenant, un de vous doit mourir, un autre doit partir en exil, et le troisième, je ne sais plus ce qui lui est arrivé. Un est mort, l'Afrique est parti en exil. Il est mort en exil. Il est parti 20 ans à l'étranger pour amener de l'argent pour la terre d'Israël. Donc, Mashiach, il veut venir. Tout le monde veut qu'il vienne. Mais s'il n'y a pas de mérite, quand Mashiach vient, c'est fini, c'est le dévoilement de la vérité. Tout ce qu'il ne mérite pas, ça va être terrible. Donc, le Rabbi Sion, il a dit il y a 30 ans déjà que Mashiach veut venir, Dieu veut venir, tout est prêt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des millions d'arrière-grands-parents et grands-parents qui prient. Non, 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 on veut encore que notre arrière-petit-fils fasse tchouva, encore lui, encore lui. On voit qu'il y en a qui font tchouva sans cesse maintenant. Alors, tu me diras pour jamais. Il y a une deadline. Mais si Mashiach revient, on ne mérite pas, c'est terrible. Maintenant, il faut savoir que plus on avance dans l'exil, plus la souffrance de l'exil fait que quelque part la facture, la souffrance inhérente à Mashiach, elle s'atténue. Deux minutes avant que Mashiach doit arriver, s'il vient par notre mérite, c'est beaucoup plus grand que s'il vient sans notre mérite. Mais deux minutes avant, c'est beaucoup plus facile de l'amener que 20 jours avant, que 200 jours avant ou 200 ans avant. Donc quelque part, Dieu, il attend la dernière minute pour que le maximum qui rentre, dans Hachem, ça sera cette année.
Qu'est-ce que vous dites? Alors, les derniers efforts qu'on doit faire pour qu'ils viennent, c'est ramener le plus de personnes possible.
Absolument. Faire tchouva et faire tchouva.
Alors, pourquoi on ne pose pas tout ce monument à et tout? On va tout dans la rue, on se met comme des fous
Je vais t'expliquer, c'est une bonne question. Pourquoi on ne fait pas tchouva et faire tchouva à tout le monde? Quand tu parles à quelqu'un pour qu'il fasse tchouva, il ne fait pas tchouva. Il faut que tu aies les bonnes paroles et que lui, il ait une écoute, puis ça le réveille. Ce réveil qui vient, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui l'envoie. Il faut un mérite. Quel est ce mérite? Il y a plusieurs choses. Entre autres, le mérite de ceux qui lisent la Torah. C'est clair que ce mérite-là est une des plus grandes raisons qui font que les gens font tchouva. Deuxième mérite, la souffrance du peuple d'Israël qu'il y a eu dans la Shoah. Je suis convaincu qu'on voit la Shoah, et quelques 30 ans après, comment ce monde de la tchouva aussi grand, c'est clair que c'est le mérite de tous nos ancêtres qui sont décédés dans la Shoah. Troisièmement, comme la Torah elle a promis, qu'on fera tchouva à la fin de l'exil. Mais sortir maintenant, arrêter d'étudier pour faire tchouva, ça ne sert pas à grand-chose. Quelques-uns sortent, étudient 10 ans, après sort, très bien. Mais 10 ans de Torah, nécessaire. Baruch Adonai, Amen. Zaku Baruch.